F-150, Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford. Le Space.
Ah, Mama Oulé.
Cast.
OK, fait que ça existe pour de vrai.
Le Space Cast.
OK.
Avec JF Blais.
Hey, les gars.
Et Louis Gauvin.
Oh, wow. Ricky Comori.
Lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
Sanivac, votre fournisseur de confiance depuis 1961. Besoin d'un service rapide? Sanivac est la solution. On a ce qu'il faut quand il le faut. Location de toilettes portatives et de roulottes sanitaires. Déglaçage à la vapeur pour éliminer rapidement la neige et la glace sur vos chantiers. Hydro-excavation pour creuser sans endommager vos infrastructures souterraines. Nettoyage d'égouts et pompage en tout genre. Nettoyage de trappes à graisse. Livraison et service rapide offerts en 24 heures. Inventaire, service, qualité. Peu importe tes besoins, choisis Sanivac.
Maison Adam.
C'est la grande vente de liquidation surplus d'inventaire chez Maison Adam. Pour l'occasion, José vous offre jusqu'à 40% de rabais sur une sélection de téléviseurs réputés et jusqu'à 50% sur les meilleures marques en audio, que ce soit pour des produits neufs, boîtes ouvertes ou démonstrateurs. De plus, certains rabais additionnels sont disponibles en magasin seulement au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro un dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Vous êtes sur la route? Bonne nouvelle pour vous! Tout le monde est en vacances puis le trafic a décidé de prendre un break aussi. Ça veut pas dire qu'il faut lâcher la prudence. Personne veut une tragédie pendant le temps des fêtes. Ce qu'on veut, c'est fêter, avoir du fun, puis voir la famille, tout ça avec modération. Cette semaine, chez Metro, faites des économies dans le tapis avec le bœuf haché maigre au format économique à 4,99 la livre ou 11 $ le kilo. Rendez-vous sur metro.ca.
En janvier, c'est chaque jour le mardi des pâtes en folie chez Boston Pizza. Créez vos propres pâtes pour seulement $11.99 ou choisissez un choix gourmet pour quelques dollars de plus. Offert en restaurant pour emporter et en livraison tout le mois. T'as le goût d'économie qui donne faim? T'as le goût de BP. Des conditions s'appliquent.
Ce samedi 3 janvier, 16h, c'est le match en blanc au Rempart de Québec. Notre équipe sera vêtue de blanc pour la seule et unique fois cette saison au Centre Vidéotron et c'est gratuit pour les enfants grâce à CGI. Ce samedi, tout le monde en blanc. Réservé au rempart.ca.
Capsule.
Radio X.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de pourvoirie dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Faites plaisir aux petits et aux grands. Rajoutez des pizzas Ludo à votre buffet des fêtes et sauvez beaucoup d'argent. Deux pizzas 9 pouces pour 12 $ chez les marchands participants. Faites vos provisions. Aliments Ludo, décongeler, cuire, servir. Attention, l'hiver peut vous surprendre. Gardez vos distances. Mais si malgré tout la route vous surprend, accrochage ou collision, rassurez-vous, il y a Car Expert HM Lévis. Assistance accident 24 heures, Car Expert HM Lévis, avoisinant l'autoroute 20, sortie Lévis-Centreville. Le Monster Spectacular est de retour au Centre Vidéotron de Québec le samedi 30 mai. Le spectacle familial par excellence mettant en vedette Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Billets en vente sur Ticketmaster.ca.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my God.
Radio X.
Bienvenue dans cette troisième semaine déjà des Radio X-Files sur les ondes de Choix 98h Radio X avec nul autre que Christian Page. Christian, bon vendredi, merci d'être à l'antenne.
Ben, ça me fait plaisir.
Passez une belle semaine.
Bon vendredi. Oui, bon vendredi à toi aussi. Oui, une bonne semaine. Merci. On se prépare. La semaine prochaine, c'est la sortie de mon livre sur les chroniques de l'étrange. Alors évidemment, on met ça, tout est mis en place là, pour que... Il y a beaucoup de demandes, médias, entrevues, tout ça. Fait que j'essaie de jongler avec mon agenda avec ça, mais
je
bon...
Je comprends, mais c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle, puis on est toujours content. Tu sais, je veux dire, quand les médias montrent un intérêt pour un auteur, là, quand il y a un intérêt des médias, ben c'est toujours le fun. Tu sais, fait que c'est pas moi qui va me plaindre de cet intérêt.
Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de te poser la question quand même avant qu'on rentre dans nos sujets. Est-ce que c'est encore facile en 2025 de vendre des livres?
Je pense que, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème vraiment avec mes livres sont des bons vendeurs. Ouais. Et à en croire, mon éditeur, malgré qu'avec la pandémie, on sait, la pandémie a le dos large, là, elle est la cause de tout, mais d'après le milieu de l'édition, le livre n'a pas trop souffert de la pandémie ou de la transformation des médias. Mais c'est sûr qu'on vend moins de livres en 2025 qu'on pouvait en vendre en 1970, là, parce qu'on n'a pas les mêmes plateformes de communication.
Absolument.
Mais c'est vrai que le milieu du livre se porte plutôt bien, me dit-on.
Bonne nouvelle.
On se croise les doigts. Oui, on se croisait les doigts. Puis d'autant plus que, on le sait, chez les jeunes, ça devient de plus en plus difficile... De trouver quelque chose qui va les intéresser à la lecture. Hein. Les jeunes sont très branchés sur leur téléphone, sont branchés devant leur écran. Et c'est un peu un combat de tous les jours de leurs parents d'essayer d'inculquer à leurs enfants cette envie de lire. Donc, on comprend que les éditeurs doivent redoubler d'efforts pour faire des produits qui vont être attrayants pour cette jeune génération, pour essayer de développer cet intérêt à la lecture. Mais... encore une fois, on se croise les doigts. Apparemment que le monde de l'édition se porte bien, considérant l'ensemble de l'arrivée de toutes sortes de plateformes de communication nouvelles depuis les 20 ou 30 dernières années. Alors, je m'en félicite.
Ah oui, tant mieux. Cette semaine, les thèmes abordés, on parle des énigmes de l'histoire et des théories du complot. Et d'entrée de jeu, on va parler de cette aviatrice, héroïne américaine disparue dans l'océan Pacifique. Est-ce qu'on a finalement retrouvé l'avion d'Amelia Earhart?
Ça, là, tu poses une grande question avec un grand point d'interrogation parce que, écoute, les auditeurs de Radio X-Files savent que j'ai un intérêt particulier pour cette histoire qui me fascine. Ouais. Et je dois l'avouer aussi, hein, les énigmes de l'histoire dans l'ensemble des phénomènes étranges et mystérieux sont probablement les histoires qui m'impressionnent ou qui m'intéressent le plus. Et comme je l'ai déjà expliqué en onde, la différence d'une énigme de l'histoire par rapport à une histoire de fantôme ou une histoire d'OVNI, c'est que généralement, on a un fond qui est bien réel, sur lequel il n'y a pas de discussion. Hein, si on parle, par exemple, de la disparition d'Amelia Earhart, on a une réalité historique indéniable. Le 2 juillet 1937, l'aviatrice est disparue au-dessus de l'océan Pacifique. Donc ça, c'est un fait indéniable. Maintenant... On peut imaginer toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes de scénarios, mais au départ, on a un événement qui, lui, est bien réel et qui est documenté. Et on pourrait dire exactement la même chose avec Jack l'Éventreur. Bon, on est en 1888, des crimes sont commis à Londres par un assassin inconnu, et cet assassin ne sera jamais attrapé, et il est connu sous le nom de Jack l'Éventreur. On a beau imaginer n'importe quel scénario, dire « Ah ouais, Jack l'Éventreur, c'était peut-être une triade maçonnique, c'était peut-être le petit-fils de la reine Victoria, c'était peut-être un tel ou un tel. » Imaginez mille et un hypothèses, mille et un scénarios. Mais il y a un fait qui est indéniable. À l'automne 1888, 5 prostituées, minimalement, ont été assassinées dans les rues de Londres par un assassin inconnu qui est passé à l'histoire sous le nom de Jack l'Éventreur. Et on peut aborder les énigmes de l'histoire toujours de la même façon, qui était l'homme au masque de fer, tu comprends, où est caché le trésor des Templiers, quelle était la nature de la bête du Gévaudan. Quelles que soient ces énigmes qu'on va aborder, il y a toujours un fond de l'histoire sur lequel il y a une certitude. Alors que dans le cas des ovnis ou dans le cas des fantômes, très souvent, si on fait abstraction des témoignages, il ne reste plus grand-chose. On a des témoins qui ont vu des ovnis, on a des témoins qui ont vu des fantômes, mais si on exclut le témoignage, et on le sait, le témoignage est toujours un peu le maillon faible de la chaîne, si on exclut le témoignage, il ne nous reste pas grand-chose. Et c'est peut-être pourquoi les énigmes de l'histoire me fascinent davantage, parce qu'au départ, je construis sur un terrain solide, et le terrain solide, c'est l'événement lui-même. Dans le cas d'Amelia Earhart, j'en ai souvent parlé à l'émission, et pourquoi j'en ai parlé souvent? Parce que c'est une histoire qui passionne les amateurs d'aviation, mais c'est également une histoire qui rebondit souvent dans les médias. C'est pas une histoire qui est oubliée depuis 50 ou 60 ans. Régulièrement, la presse va revenir sur cette histoire parce qu'il y a de nouvelles hypothèses, de nouvelles recherches qui sont amorcées. Et là, c'est un peu dans ce sens-là qu'on en reparle. Il y a quelques jours, il y a un pilote anglais, un capitaine de l'aviation civile anglaise, un certain Justin Myers, qui a fait l'affirmation qu'il était persuadé de savoir où se trouvait l'avion d'Amelia Earhart. Donc, je rappelle un peu pour les auditeurs qui était cette aviatrice. Hein? On doit reculer, là, c'était l'époque de l'aviation un peu héroïque. Hein? On est dans les années 20, les années 30, c'est un milieu qui est en plein développement. Lindbergh va traverser l'Atlantique la première fois en mai 1927. Bon. Et c'est souvent aussi un monde d'hommes. Hein? Le début de l'histoire de l'aviation est marqué par des exploits qui sont menés surtout par des hommes. Et Amelia Earhart est une femme qui va un peu s'imposer dans ce milieu d'hommes. Elle est toujours, c'est triste, mais c'est quand même c'est le contexte de l'époque, elle est toujours quand même un peu à la remorque derrière les hommes. La première fois qu'elle va traverser l'Atlantique, elle va le faire, elle va devenir la première femme à traverser l'Atlantique. Mais elle est dans un avion qui est piloté par des hommes, tu comprends? Elle devient la première femme, elle franchit également, elle devient une héroïne parce qu'elle est la première femme à franchir le Atlantique en solitaire. Oui, mais des années après que Lindbergh l'ait fait. Donc, il y a toujours un peu cette idée d'elle est à la remorque d'un milieu qui est surtout occupé par les hommes. Et arrive cette grande idée, là, vraiment, elle se dit, je vais tenir le haut du pavé, il n'y a pas des hommes qui m'auront précédé dans cet exploit-là. On est en 1937, et son idée est de faire le tour du monde à bord d'un avion. Donc, on comprend bien, ça nous semble tellement loin, tellement invraisemblable. On envoie des hommes sur la Lune, on envoie des sondes robotisées sur Mars. Il y a quelques jours, Elon Musk a lancé sa super fusée qui éventuellement va servir au lancement des hommes vers la Lune dans le projet Artemis. Et là, voilà qu'on est à ce micro puis on parle des exploits héroïques de l'aviation qui a à peine un siècle quand même. C'est pas si loin. Hein? Faut-il le rappeler, hein? Il y a à peine 60 ans qui s'est écoulé entre le moment où les frères Wright ont volé pour la première fois avec un avion et le débarquement de l'homme sur la Lune en 69. Hein? Donc, on voit que le développement dans le domaine de l'aviation s'est fait de manière exponentielle.
Absolument. Puis j'imagine qu'à l'époque, de vouloir faire le tour du monde, c'était pas des avions à réaction, là.
Pour les avions à réaction, il faut attendre le développement de la Deuxième Guerre mondiale pour voir arriver les premiers avions à réaction. Parce qu'on avait des turbopropulseurs propulsés, là, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des moteurs, si on peut dire, là, surpuissants avec une espèce de compression, mais on est encore avec des moteurs à hélice. Et ce que propose Amelia Earhart en 1937, elle se dit, ben voilà, je propose de faire le tour du monde à bord d'un avion. Donc, prouver qu'il est possible, avec différentes escales, bien sûr, on ne peut pas faire le tour du monde avec un seul réservoir de carburant, et surtout à cette époque, hein, les moteurs d'avion consommaient beaucoup. Mais elle dit, voilà, on pourrait développer... L'idée, c'est de démontrer que l'aviation civile pourrait éventuellement remplacer le transport maritime et principalement le transport de passagers. Hein, parce qu'on est encore, c'est encore l'époque assez luxueuse des grands navires, les grands transatlantiques. On n'est pas encore dans c'est pas encore les croisières telles qu'on les connaît aujourd'hui qui se font essentiellement par aspect ludique. Hein. Les gens vont en croisière pas pour aller d'une île à une autre ou d'aller vers une destination. C'est le package deal, tu comprends? On fait une croisière parce que à la fois on veut visiter, par exemple, les îles des Caraïbes, mais en même temps, c'est tout le luxe sur le navire, les casinos, tout ça. Donc, il y a une espèce de combinaison. Alors qu'à cette époque, on est dans les années 20, les années 30, les gens qui vont d'un pays à un autre, et particulièrement si on veut partir de l'Europe pour aller en Amérique, ben c'est essentiellement encore le transport maritime. On monte à bord de bateaux qui vont nous amener d'un point à un autre. y a tentativement des développements qui se font du côté des gigantesques ballons dirigeables, dont l'un est resté là, de triste mémoire en 1937 lorsque le Hindenburg, le ballon allemand, a brûlé à Lakehurst au New Jersey. Hein. C'était des images que tout le monde a vues, cet immense ballon qui prend feu et en quelques secondes tombe au sol et est réduit en cendres. Hein. C'est des images qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Mais encore une fois, même dans ce développement des grands dirigeables, on parle quand même d'un nombre très limité de passagers. Ça s'adressait essentiellement à une élite bourgeoise. On pouvait monter, dans le cas par exemple de l'Hindenburg, on parle d'une centaine de passagers là, au maximum, incluant les membres d'équipage. Donc, on est très limité. Ce que veut montrer Emilia Earhart, c'est de dire, ben voilà, avec un avion éventuellement et des stations au sol où on peut s'alimenter en carburant, bien, il est possible de faire le tour du monde. Donc, éventuellement, l'aviation est en voie de développement et on pense déjà à demain. Et demain, c'est le déplacement d'avions de passagers sur des avions.
Donc, c'est comme ça, donc. Oui, elle a besoin d'un plan quand même assez étoffé, là, parce que...
Ouais, ben. Donc, à ce moment-là, Emilia Earhart dit, ben voilà, je vais prendre un appareil qui est surtout utilisé pour des vols intérieurs, qui est en fait essentiellement utilisé pour des vols intérieurs. C'est un très bon appareil, hein. C'est un Lockheed 10E Electra, qui est un très, très bon appareil avec un double hélice, là, deux moteurs, un bimoteur. Et elle dit, ben voilà, je vais partir éventuellement. Bon, au départ, son projet original était de partir de la Californie et de se rendre aux îles Hawaï, de là gagner finalement ce qu'on appelait à l'époque la Polynésie, remonter ensuite vers l'Afrique, l'Europe et revenir en Amérique. Mais le départ ne se fait pas comme prévu et éventuellement, lors d'une première tentative, son avion va s'écraser au bout de la piste à Hawaï. Donc, elle a fait Californie-Hawaï et au moment de repartir d'Hawaï, elle s'écrase en bout de piste. L'appareil est très endommagé. On le ramène aux industries Lockheed en Californie où il est reconstruit. Et à ce moment-là, Emilia Earhart décide de changer son plan de vol. Son plan de vol, c'est de partir. Elle décolle au mois de juin, au début juin. Et son plan de vol, c'est, bon, je pars de la Floride, je vais rejoindre l'Amérique du Sud. Et on pense toujours à des arrêts pour une recharge en carburant. Hein. On va refueler l'appareil. Donc, elle part, elle va se rendre en Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud, elle va ensuite gagner l'Europe, hein, l'Espagne, le nord de l'Afrique, ensuite les pays arabes. Hein, éventuellement, ben, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et éventuellement, son dernier point d'arrêt important, elle doit repartir de l'AE en Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle doit rejoindre les îles Hawaï. Et c'est là qu'est le gros problème. C'est que on est au-dessus de l'océan Pacifique, il n'y a à peu près rien là. Et là, elle ne peut pas faire l'AE Nouvelle-Guinée, destination Hawaï, d'un seul coup d'aile. Ça ne fonctionne pas. Même son avion a été très modifié, hein, c'est devenu pratiquement un réservoir de carburant volant, elle doit obligatoirement se ravitailler en carburant. Et entre Hawaï et l'AE, en Nouvelle-Guinée, il y a une toute petite île. Hein. Dans cette région-là, ce sont des îles pour la plupart désertes ou ce sont des atolls. Hein. Ce sont des îles qui sont faites de coraux. Donc, il y a une île entre Hawaï et l'AE, en Nouvelle-Guinée, qui s'appelle l'île de Howland, qui est inhabité, mais on se dit que ce serait un bon point d'arrêt. Donc, avant le départ d'Emilia Earhart, on y avait aménagé un terrain d'atterrissage de fortune. Il y avait un navire de la garde côtière américaine qui avait été envoyé dans la région. Et là, donc, elle doit partir de l'AE en Nouvelle-Guinée, encore une fois. Elle doit se poser sur l'île Darlene, se ravitailler en carburant et ensuite regagner les îles Hawaï. Et de Hawaï, la Californie, et elle aura complété son tour du monde. C'est là que les choses vont mal se passer. Donc, au moment de son départ, on est le 2 juillet 1937, elle quitte l'AE. Quand on regarde les images, parce qu'il y a des images qui ont été tournées, on voit qu'elle, elle ne le fait pas seule. Il y a un navigateur avec elle, un certain Fred Noonan. Et au moment du départ, hein, on la voit monter sur l'aile de l'appareil, elle salue la foule. Et on voit que c'est une femme qui est fatiguée. Elle a les traits tirés. On voit aussi que Fred Noonan est dans le même état. On voit qu'il est temps que l'épopée se termine. Et au moment où elle décolle, si on est très attentif, parce que les experts dans le domaine de l'aviation ont visionné et revisionné ces images, quand on est très attentif, on voit juste au moment où elle quitte la piste, l'avion rebondit un peu en bout de piste, et on voit juste sous la queue de l'appareil, on voit apparaître un petit nuage de fumée. Vraiment, là, une bouffée de fumée.
Oh.
Et pour les experts, il est clair que cette bouffée correspond au fait du bris de l'antenne de réception. Hein, il y a deux antennes sur le dessus de l'avion. Ce sont les antennes de communication, ce qui permet à Amelia Earhart de communiquer avec l'extérieur. Mais l'antenne de réception se trouve en dessous de l'avion. Et quand on voit cette petite fumée, les experts sont d'avis que l'avion, en rebondissant, l'antenne a touché la surface de la piste et s'est brisée. Donc, Emilia a le moyen de communiquer avec l'extérieur. Elle l'ignore, là. Mais ses antennes pour communiquer fonctionnent bien, mais ses antennes pour recevoir sont complètement hors fonction.
Donc,
à moins d'être très, très près. Elle pourrait éventuellement là, utiliser les antennes d'émission comme antennes de réception, mais ses antennes, pour ce qui est de la réception, ont une portée beaucoup moins grande. Donc, ce qui se produit, donc l'avion, le vol se passe relativement bien. Elle est pendant des heures et des heures en vol. Et puis, éventuellement, en fin de nuit, alors qu'elle doit se poser sur l'île de Howland, il faut savoir que dans l'île, on a allumé un feu qui doit se voir à une dizaine de kilomètres de distance là, pour guider l'aviatrice. Donc, en fin de nuit, elle commence à communiquer par radio. Elle contacte ce navire qui mouille dans les eaux de l'île Howland, qui s'appelle l'Itasca. Et là, elle dit, « Ben voilà, Itasca, je me dirige vers vous. Le temps est maussade, je vois pas très bien. La pluie s'est mise de la partie. Mais bon, on est en route. J'attends simplement que vous me recontactiez pour qu'on puisse prendre notre position, faire un relevé de position, tout ça. » Sur le navire, sur l'Itasca, les sans-filis, hein, les radios sans fil, les sans-filis, comme on les appelait, hein, c'est étrange de parler ce dialogue, ces termes qui étaient utilisés il y a à peine un siècle. Donc, les sans-filis sont là, leur radio, ils entendent les messages d'Amelia Earhart, mais à chaque fois qu'ils tentent de communiquer avec elle, ils constatent qu'elle ne reçoit pas, hein, parce qu'on le voit par ses réactions, elle répond, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne me répondez pas, oui. Je vais changer de longueur. Donc, les gens qui sont sur l'Itasca comprennent bien que les messages qu'Amelia Earhart leur parle, la teneur des messages qu'elle leur renvoie, qu'elle ne les entend pas. Et puis, éventuellement, on sent que l'inquiétude monte d'un cran. Elle commence à parler des réserves de carburant qui sont relativement basses. Et puis, éventuellement, le dernier message, elle donne une position sur une ligne. Elle dit « Je vole nord-sud. Je ne vous vois pas. Mes réserves de carburant sont pratiquement épuisées. » Et c'est la fin des communications. Amelia Earhart ne se posera jamais à l'île de Howland et on ne retrouvera jamais rien de son appareil. Donc, il y a à cette époque, en 1937, c'est les plus grandes recherches jamais menées en mer pour retrouver un appareil disparu et qui vont demeurer vaines. Et depuis, la disparition d'Amelia Earhart est devenue une espèce de passion pour les amateurs d'aviation. Et en fait, je te dirais que c'est le plus grand mystère de l'aviation qui a été détrôné uniquement en 2014 avec la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines.
Oui.
Mais jusqu'à la disparition de l'appareil de la Malaysian Airlines, si on s'adressait aux experts dans le domaine de l'aviation et qu'on leur demandait quel est le plus grand mystère de l'aviation, ils auraient répondu unanimement la disparition d'Amelia Earhart. Les conditions dans lesquelles l'appareil disparaît sont vraiment étonnantes. Alors depuis, on a émis toutes sortes d'hypothèses, certaines un peu fantaisistes. Hein. Elle aurait été capturée par les Japonais parce qu'elle était en mission d'espionnage pour le gouvernement américain. Ça fait des bons films, mais c'est pas la réalité. Et puis, au cours des dernières années, je te dirais les 20-25 dernières années, les experts s'entendent qu'il y a une cible qui est particulière. On essaie de se mettre dans la peau d'Amelia Earhart. Je n'entrerai pas dans les détails, mais si on était assis, on prenait place à bord de l'appareil, on était assis dans la position où elle se trouvait, le meilleur choix qu'elle avait à faire, c'est de tourner vers le sud. Et en tournant vers le sud, comme elle ne trouvait pas l'île Howland, en tournant vers le sud, elle aurait survolé un chapelet d'îlots inhabités. Un archipel qui est composé d'une dizaine d'îles qui aujourd'hui fait partie de la République des Kiribati. Et l'une de ces îles qui était inhabitée à l'époque, c'est l'île de Nikumaroro. C'est une île corallienne, hein, c'est un atoll. Et cette île se serait éventuellement trouvée sous l'avion d'Amelia Earhart. Donc, dans n'importe quelle circonstance, un atterrissage vaut mieux qu'un amérissage. Donc, oui. Amelia Earhart aurait pu tenter, en dernier recours, d'amerrir juste sur les... ou bien atterrir sur la plage de l'île ou tenter un amerrissage juste dans les eaux qui baignent la côte. Donc, à ce moment-là, une fois que l'avion serait tombé à l'eau, elle et Fred Noonan auraient pu sortir de l'épave et nager jusqu'à la côte. C'était la meilleure chose à faire. Donc, on s'est donné rendez-vous beaucoup sur l'île de Nikumaroro au cours des 20-25 dernières années à essayer de retrouver des débris de l'avion. Mais c'est difficile parce qu'il faut se rappeler qu'un avion comme celui-là, à l'époque, le squelette, si je puis dire, la charpente, est composée de bois. Et l'extérieur, qui est en aluminium, ben, sous les tropiques, dans de l'eau salée et en fonction des conditions climatiques, va rapidement se détériorer. Il ne faut pas penser qu'on retrouverait l'avion d'Amelia Earhart en tant qu'avion. La seule chose qui peut rester de l'appareil... Ouais. Voilà, la seule chose qui peut rester de l'avion d'Amelia Earhart, ce sont les pièces lourdes qui étaient faites en acier. Et ces pièces, c'était le train d'atterrissage ou encore les moteurs. C'est les seules choses qu'on peut espérer retrouver. Et là, bon, je pourrais t'en parler pendant des heures, c'est une histoire qui me passionne, mais pour en arriver à notre actualité, puisque le temps file, on a donc ce capitaine Justin Meyer qui raconte qu'en 2022, il regardait un documentaire à la télé et ce documentaire parlait de la disparition d'Amelia Earhart, ce qui l'a bien sûr intéressé, lui-même étant pilote professionnel. Et là, on a abondamment parlé de l'île de Nikumaroro qui était à l'époque inhabitée et qui fait l'objet de plusieurs recherches. Et ça lui a donné une idée. Il s'est dit, bon, ben, ça a vraiment piqué sa curiosité. Donc, il a fait sortir des photographies satellites de l'île de Nikumaroro. Donc, parce qu'on y a tous accès à ces photos satellites via Google Maps, là. Mais bon, il faut savoir qu'il existe d'autres satellites autour du monde qui photographient le sol avec des résolutions plus grandes que Google Maps. Donc, il a fait sortir des cartes de l'île de Nikumaroro, des photographies aériennes de l'île. Et là, ben, en zoomant, il a regardé plusieurs endroits. En tant que pilote professionnel, il s'est mis un peu dans la position d'Amelia Earhart en disant, OK, si je survole l'île, quel est l'endroit où j'aurais tenté moi un amerrissage où j'aurais tenté de me poser sur la plage. Et là, il est ciblé donc une partie de l'île où il y a comme une ouverture. En l'île, grosso modo, elle ressemble un peu à un fer à cheval. Donc là où il y a l'ouverture dans le fer à cheval, ça aurait été l'endroit le meilleur parce qu'en me posant là, j'ai rejoint la côte et il y a une espèce de lagune. Il y a les eaux qui vont vers la lagune. Donc j'aurais même pu tenter de me risquer sur ce petit bras d'eau là, qui forme le fer à cheval. Et en zoomant sur ces cartes, pas des cartes, mais des photographies satellites, il a remarqué dans le paysage des espèces d'anomalies qui ne correspondent pas à un développement naturel. Donc là, il émet l'hypothèse que à tel ou tel endroit, s'il y a des formations qui sont un peu inhabituelles, il pourrait s'agir, par exemple, du train d'atterrissage ou d'un moteur autour duquel se serait développé du corail, par exemple, et qui donnerait ces aspects un peu inhabituels qui semblent détonner sur l'environnement général. Donc, pour ce Justin Myers, il ne fait aucun... Pour lui, il est persuadé à 99% qu'il a réussi à trouver l'endroit où se trouve l'appareil d'Amelia Earhart, qui est bel et bien sur la côte, tout près de l'île de Nikumaroro. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller vérifier sur place. Il a mis en ligne un site Internet où on voit les photographies, les zooms qu'il a fait, les éléments qu'il a récupérés dans l'environnement qu'il juge, lui, comme étant inhabituel. Moi, je dois avouer que j'ai passé quelques heures sur son site à détailler l'ensemble de ses photographies, ça, ouais. À regarder. Et j'ai pas le même enthousiasme que lui. Et je t'explique pourquoi.
Okay.
Ce qu'il fait me rappelle étrangement les amateurs d'extraterrestres, d'OVNI, tout ça. On fait exactement le même exercice avec les photographies prises de la Lune. Hein, durant les missions Apollo, pour les plus jeunes là, qui ne savent pas comment ça se passait, il y avait toujours un astronaute qui restait en orbite autour de la Lune dans le vaisseau qu'on appelait le vaisseau Apollo, qui était composé du gros moteur derrière et du module de commande là, qui ressemblait un peu comme à un cône. Hein, c'est là-dedans. Bon, il y avait un astronaute qui restait dans le cône et deux autres astronautes prenaient place à bord du LEM qui, lui, venait se poser sur la Lune. Les astronautes débarquaient, faisaient leur manœuvre extravéhiculaire et ensuite, avec le vaisseau, ils remontaient en orbite, allaient se brancher, s'arrimer au vaisseau qui était en orbite et puis ensuite, ces gens-là revenaient vers la Terre. Pendant que les astronautes étaient sur la Lune à faire leur mission extravéhiculaire, le vaisseau Apollo qui est en orbite autour de la Lune, qui avait un astronaute, dans le cas par exemple de la célèbre mission Apollo 11, où on a vu les premiers hommes débarquer sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, l'astronaute qui est demeuré en orbite, c'était Michael Collins. Donc, durant le temps où l'astronaute est en orbite, il prend des dizaines, voire des centaines de photographies de la surface de la Lune vues depuis l'espace, donc vues depuis le vaisseau Apollo. Et on a vu énormément d'amateurs d'OVNI commencer à prendre ces photographies et à zoomer sur ces photos. Et à force de zoomer, ben, ils ont trouvé comme des espèces d'éléments dans la surface lunaire qui semblent briser le modèle naturel. On a l'impression qu'il y a un angle droit près d'un cratère, une ombre qui n'est pas au bon endroit. Et tout ça a amené dans l'imaginaire. Ils ont imaginé des structures sur la Lune allant jusqu'à des bases extraterrestres. Et pour preuve, bien évidemment, ils montrent ces fameuses photographies où on a des zooms à l'extrême qui semblent montrer des anomalies dans l'image. C'est un jeu qu'on appelle un jeu de pareidolie. À force de zoomer sur une image, les pixels de l'image vont devenir tellement flous que comme notre cerveau n'aime pas l'abstrait et le flou, ben il va vite voir des formes qui, en fait, ne sont pas vraiment là. Il va associer des points entre eux et nous donner l'impression qu'il y a une forme qui est là, mais en réalité, cette forme-là n'existe pas. Elle est due par une illusion de notre cerveau qui nous amène à croire ça et également par le zoom extrême de l'image qui déforme les pixels de l'image. Et c'est exactement ce que fait Justin Myers. Moi, j'ai regardé ses photographies et je ne vois pas les formes qu'il parle. Lui les voit parce qu'il a bien envie de les voir. Mais si, objectivement, on prend ces photos, on les retire et on les donne à quelqu'un d'autre, puis on leur dit « Est-ce que tu vois quelque chose là-dessus? » Les gens ne voient strictement rien. Donc, je reste optimiste, j'aimerais bien. Oui, je me dis, bon, ben peut-être que j'aimerais bien qu'on ferme le dossier à Amelia Earhart et qu'on arrive avec définitivement des preuves tangibles et matérielles que l'aviatrice a bien fini ses jours sur l'île de Nikumaro. Mais les photographies que présente Myers avec les affirmations qu'il fait, ben je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. On peut rester enthousiaste, mais à force de zoomer sur des photographies, on va chercher des détails, on va chercher une déformation, on crée une déformation qui peuvent nous amener, des déformations qui peuvent nous amener à croire qu'il y a des éléments dans l'environnement qui ne sont pas en réalité exactement ce que l'on croit voir. Donc, restons ouverts, mais on voit que l'énigme d'Amélie, la disparition d'Amelia Earhart continue toujours d'attirer beaucoup d'intérêt et de susciter toutes sortes de débats et d'hypothèses.
Ouais, je comprends qu'à l'époque, on n'avait pas nécessairement de transpondeur, mais avec la trajectoire, elle avait un plan de vol, avec l'heure à laquelle les communications ont été envoyées, je ne sais pas.
Ouais, donc
on n'a pas été en mesure de cibler le...
Non, à partir d'un moment où elle envoie son dernier message, elle dit « Bon, je suis sur une ligne nord-sud. » Après, c'est la dernière communication. Combien de temps a-t-elle volé après ça? Est-ce qu'elle a volé encore pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure? Bref, si elle était, et puis on ne sait pas à quel point elle était distante de l'île Howland, était-elle, lorsqu'elle dit « Je vois pas l'île », alors qu'elle aurait dû voir le panache de fumée du feu qui avait été allumé dans l'île, ça nous laisse supposer qu'elle s'était très éloignée de sa trajectoire originale. Invariablement, elle avait dévié et elle n'arrivait plus à retrouver sa position. Donc, était-elle à 50 km de l'île Howland ou était-elle à 200 km de l'île Howland? On l'ignore. Mais c'est sûr que si, quelle que soit la position où elle se trouvait, si elle avait décidé à un moment du vol de tourner vers le sud, il y avait à ce moment-là deux perspectives pour elle. Si elle était au nord de l'île de Howland puis elle tournait vers le sud, elle aurait trouvé l'île Howland. On sait qu'elle ne l'a pas fait, que ça ne s'est pas produit. Ouais. Donc, on suppose qu'elle devait se trouver au sud de l'île Howland. Et si elle était au sud de l'île Howland et qu'elle a tourné vers le sud, elle allait directement en trajectoire de l'île de Nikumaroro, qui devenait finalement son meilleur choix pour tenter un amérissage.
Très intéressant.
Donc, on va se faire une petite pause, si tu le veux bien. Et après, je vais te parler d'un autre énigme de l'histoire, l'Arche de Noé.
Avec un immense plaisir. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files. D'ailleurs, si jamais vous voulez commenter, 418-670-9098. On revient tout de suite après ceci.
Radio X-Files.
Avec
la trame sonore. Radio X, ta fin de semaine. ces légendes du rock.
On Radio X.
Avec Pee-wee.
La trame sonore.
Ces légendes du rock.
Samedi et dimanche, 9h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Vous avez de la misère à choisir vos résolutions pour le nouvel an? Chez Stratos, vos résolutions sont déjà au menu. Manger mieux, se gâter, partager, essayer, aimer. Jusqu'au 31 janvier, profitez de rabais sur notre salade César avec poulet grillé, toutes nos assiettes wrap, nos pizzas et poutines et notre fameuse pizza américaine. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle promo. Certaines conditions s'appliquent. Détails sur stratospizzeria.com.
Stratos Pizzeria, en plein dans le goût.
Salut Québec, ici Samuel Cadotte, propriétaire de Montréal Bungee. Cette année à Noël, offre un cadeau complètement malade. Le plus haut saut à l'élastique au Canada, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal. Sors de l'ordinaire et procure-toi ton certificat cadeau sur montrealbungee.com.
Capsule.
Radio X.
Pas de place pour tout après votre déménagement? Astral Déménagement a la solution. Entreposage sécuritaire, propre et chauffé à court ou long terme. Astral Déménagement, déménager, entreposer, respirer. Astral.ms. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford. Votre national sera en action le 11 janvier prochain au Centre Bonheur de l'Ancienne Lorette. Votre équipe affronte les éperviers de Sorel-Tracy à 14h. Venez encourager votre national. Ce match est présenté par Bernard Filiatreault, gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale. Venez profiter de nos soirées hockey à l'un de nos restaurants Trois Brasseurs des Galeries de la Capitale, de Grande Allée ou Place Sainte-Foy. Pour une expérience hockey ultime, on se rejoint entre amis aux Trois Brasseurs. Bon plat et bonne bière brassée sur place vous attendent.
Radio X Files.
Execute program. Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files avec Christian Page. Ce soir, les énigmes de l'histoire et théorie du complot sont en train de se rendre là. Parce que un des autres grands mystères de l'histoire du monde, c'est bien l'histoire de l'Arche de Noé. Ça a-tu vraiment existé, ça?
Là, c'est une question qui relève plutôt de la foi. Hein? Mais oui. Bon, effectivement, bon, tout le monde connaît le récit de la Genèse. Hein? Dieu décide de détruire sa création. Il va choisir un homme juste et bien, qui est Noé, qui va construire cette fameuse arche dans laquelle il doit mettre un couple de tous les animaux qui vit sur Terre. Et ensuite, il monte dans l'arche avec sa famille. Et puis arrive le fameux déluge et qui va balayer la surface du monde. Et bon, selon le récit de la Genèse, on nous dit qu'éventuellement, lorsque les eaux se sont retirées, l'arche s'est retrouvée sur les montagnes d'Ararat. C'est ce que nous dit le texte. Bon, il faut tout de suite le dire, hein, le texte de la Bible, la Genèse, qu'on retrouve d'abord dans la Torah, donc ce qu'on appelle couramment l'Ancien Testament, mais qui est la Torah juive. Hein, bon, dans la Genèse, donc le récit de la Genèse n'est pas un récit original. On sait que ce récit-là, au moment où on va l'écrire, il va faire partie de la Torah. On sait qu'il existe déjà, c'est les Sumériens. Là. Donc c'est une recopie d'un texte, un événement qu'on retrouvait dans les légendes, les récits historiques de chez Sumer et qui va être récupéré par une espèce de tradition de bouche à oreille. Donc, le récit de la Genèse nous dit, bon, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Les montagnes d'Ararat, aujourd'hui, hein, c'est une chaîne de montagnes qui se trouvait à l'époque en Arménie. La chaîne se trouvait en Arménie. Et l'un des sommets de cette chaîne de montagnes, c'est le mont Ararat. Donc aujourd'hui, quand on parle on a tendance à dire l'Arche de Noé sur le mont Ararat, il faut quand même remettre dans le contexte que selon le récit de la Genèse, on ne nomme pas la montagne précise. On dit simplement que l'Arche est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Mais la chaîne de l'Ararat, à l'époque, là, il y a 4000 ans, là, c'était une trentaine de sommets. Là. Ça fait que ça peut être beaucoup de sommets. Mais néanmoins, pour ne pas confondre les auditeurs, disons que quand même depuis deux siècles, les gens qui essaient de retrouver les vestiges de l'Arche de Noé, en supposant qu'il ait existé, se donnent tous rendez-vous au mont Ararat, qui se trouve dans l'est de la, Turquie, tout près de la frontière là, avec l'Arménie, tout ça. Donc, j'y suis allé. Donc, j'y suis allé à la montagne, je suis allé sur le glacier. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais
ça,
bon.
Ben, ça devait être une méchante vague, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce coin-là.
Non, effectivement. Puis on parle quand même d'une montagne qui culmine à quelque chose comme 6000 mètres. Donc, il faut beaucoup d'eau pour monter un bateau à 6000 mètres d'altitude. Mais bon, bref, les amateurs se donnent rendez-vous dans l'espoir de trouver des débris de l'arche. Il faut savoir qu'à 29 km au sud du mont Ararat, il y a une formation géologique dans le fond d'une vallée qui ressemble visuellement, là, quand on la regarde, elle ressemble à un bateau, un gros bateau de pierre dans le fond d'une vallée.
Okay.
Pour certains, ce gros rocher, hein, cette grosse forme de pierre qu'on appelle l'arche du Ripinard. Pourquoi du Ripinard? Parce que, bon, cette forme a été vue pour la première fois du haut des airs en 1959 par un cartographe de l'OTAN qui survolait la région pour faire des photographies pour des relevés cartographiques. Et en survolant cette vallée-là, voit cette forme de bateau dans le fond de la vallée. Donc, il en a pris une photo. Et l'année suivante, en 1960, la photo a fait la une du Life magazine aux États-Unis avec la mention « Serait-ce l'arche de Noé ». Donc, depuis, la forme « l'arche » ou « le rocher du Rupinard » est devenue synonyme de « peut-être l'arche de Noé ». Donc, là aussi, j'y suis allé. Et moi, je n'ai vu qu'une grosse roche, mais bon, tous n'ont pas la même vision que la mienne. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui croient au récit biblique de manière littérale vont essayer de trouver des vestiges de l'arche de Noé dans cette région du monde. Et ce qui nous amène à cette nouvelle, donc, on a un groupe de fondamentalistes religieux. C'est bien important de le mentionner. Ce sont des gens pour qui on prend le récit de la Genèse ou tous les récits de la Bible, on les prend au mot à mot, là. Donc, pour eux, il n'y a aucun doute que le déluge a lieu, Noé a embarqué tous les animaux, puis bon, il a survécu, lui et sa famille, au déluge parce qu'ils étaient à bord de l'arche. Donc, ces gens-là ont mené, il y a quelques mois, des recherches sur ce fameux rocher, hein, l'arche du Rupinard ou rocher du Rupinard. Ils sont allés là, ils ont utilisé des radars à pénétration de sol et ils soutiennent avoir trouvé à peu près à 10 mètres de profondeur dans la roche, avoir trouvé des formations géologiques qui sont particulières, hein, comme si dans les couches profondes du sol, il y avait des anomalies à angle droit, tout ça. Et leur conclusion, ils ne sont pas les premiers à l'énoncer, là, hein. Ça fait quand même, depuis que la forme est connue, qu'on entretient cette idée-là qu'elle pourrait être l'arche de Noé, pétrifiée et transformée en pierre. Donc, c'est un peu le récit que reprend ce groupe de fondamentalistes, un groupe qui est un groupe religieux qui se trouve en Californie, qui est dirigé par un certain Andrew Jones. Et ils affirment qu'à partir de ce moment-là, eux, ils ont la conviction que la forme en question est bel et bien l'arche de Noé pétrifiée. Il faut dire que la forme, qui fait à peu près, là, comme je l'ai mentionné, vue du haut des airs, même vue d'à côté, ça a vraiment l'air d'un bateau, là. Les gens qui vont sur mon site web ont vu probablement la photo de moi me tenant devant le rocher, puis ça a l'air d'un bateau. Tu sais.
Ah oui.
Elle fait 157 mètres de long par 25 mètres de large, et sa hauteur, hein, elle sort du sol, évidemment, c'est un peu comme un rocher qui émerge de la terre. Elle fait, là, dépendamment des endroits, elle fait de 9 à 16 mètres de haut. C'est assez gros, hein? C'est un une grosse forme rocheuse. Donc, ces gens-là disent, voilà, on a la conviction que ça, c'est un rocher, l'arche de Noé qui est pétrifiée. On s'appuie sur des relevés radars qui ont été faits il y a quelques mois. Et là, ils ont obtenu, il y a quelques jours, l'autorisation des autorités turques pour pouvoir éventuellement procéder à des carottages et à un creusage à l'intérieur de la forme. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas la détruire parce qu'il faut savoir que depuis une trentaine d'années, 40 ans maintenant peut-être, le gouvernement de la Turquie a déclaré cet endroit-là parc officiel de l'Arche de Noé.
Bon.
Je sais pas si espérait attirer des touristes, mais même pour te dire, Nick, écoute, cet endroit-là est tellement isolé, là, t'es au bout du monde, hein. Tu roules, et là, qu'est-ce que t'as autour de toi? C'est le désert, des roches, y a personne, des roches, le désert. Puis là, t'arrives au bout d'une route de terre, puis là, t'arrives là, tu surplombes la vallée, là. C'est au milieu du désert. Et là, si tu n'arriveras jamais à développer du tourisme localement, là, je veux dire, la ville la plus proche est à 10 km. T'es au milieu de nulle part. C'est vraiment le bout du monde et c'est des paysages lunaires. Bref, le gouvernement de la Turquie a déclaré cet endroit-là parc national de l'Arche de Noé. Donc, c'est sûr qu'on développera pas beaucoup de touristes autour de ça, mais comme c'est un parc national, on doit le protéger. Il n'y a pas question de procéder à la destruction. Donc, ces gens-là ne pourront pas arriver puis dynamiter le fameux rocher en question pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Mais ils ont été autorisés à faire des carottages. Donc, ils vont revenir. Hein. Donc, on nous annonce ça. Il y a quelques jours, on nous annonçait que l'équipe se préparait à retourner à cette forme, ce rocher, Arche du Ripinard, et qu'ils vont procéder à des carottages à l'intérieur à partir du dessus de la surface de la roche, des carottages qui pourraient s'enfoncer jusqu'à 10 mètres dans le sol. Et à partir de ces carottages, ils vont pouvoir analyser les strates de roche pour essayer de déterminer s'il y a des anomalies dans ces strates de roche qui permettent de croire que cette forme aurait pu être jadis ou aurait contenu du bois quelque part avant qu'il se pétrifie et devienne cette espèce de gros rocher. Bon, ça, c'est ce qu'eux veulent faire. Moi, pour être allé sur place, j'ai vu cette forme-là, j'ai parlé avec des archéologues, et des géologues. Il faut quand même le dire, on se trouve dans une vallée où cette arche, cette fameuse arche de Durupinard, elle n'est pas unique. Dans la région, là, si on dirait, là, autour, dans un circuit d'à peu près 30 ou 40 kilomètres autour du site, on trouve d'autres formes rocheuses qui sont dues à des écoulements de boue qui proviennent des montagnes et qui ont donné un peu cette forme qui ressemble un peu à un bateau. Pas aussi impressionnante que la soi-disant arche de Durupinard, mais ce sont des formes plus petites, mais qui épousent tout à fait la forme d'un bateau. Donc, disons que si le rocher de Durupinard, c'est l'arche, ben disons qu'autour, on trouve des canaux. Des petits canaux ou des barques. Hein? Okay. On en trouve. Donc, à partir du moment où on trouve dans la région d'autres formes qui sont liées à des écoulements de boue, qui ont plus ou moins la même forme, je ne vois pas pourquoi on devrait imaginer une autre explication à l'arche de Durupinard. D'après les géologues et les historiens, les spécialistes, bon, l'idée d'un bateau qui aurait survécu à 4000 ans d'histoire, qui aurait laissé sa forme, c'est un peu invraisemblable. Et en même temps, pour les géologues, c'est une formation qui est assez courante, qui est visiblement liée à des écoulements de boue qui proviennent des montagnes environnantes. Donc, rien de très... Ce n'est qu'une curiosité, hein? Mais comme elle se trouve, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, à 29 kilomètres du mont Ararat, ce fameux mont Ararat qui, selon le récit de la Genèse, aurait été le point de chute, finalement, de l'Arche de Noé, puis tu comprends que, pour les fondamentalistes religieux, tout ça fait sens.
Ouais, ça colle à
l'histoire. Il doit y avoir une vérité. Et on peut se demander pourquoi est-ce que les fondamentalistes religieux... Puis là, on comprend bien, là, je suis pas là pour faire des jugements de valeur. Là. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais pour les fondamentalistes religieux, on comprend que trouver un vestige de l'Arche, ce serait pour eux une preuve matérielle qui confirmerait le récit biblique. Et le récit biblique de manière littérale. Parce que beaucoup de groupes fondamentalistes religieux croient, par exemple, que les dinosaures n'ont pas existé. Ou s'ils ont existé, sont moins vieux que les paléontologues le prétendent, que le monde a été créé en 7 jours, hein, septième jour a été le jour de repos de Dieu, et il y a eu Adam et Ève, il y a eu le jardin d'Éden, donc tous ces récits qui ont entretenu notre enfance, hein, ou toute l'histoire religieuse, ben ces gens-là le prennent littéralement, alors que les exégèses, eux soutiennent que tout ça, c'est des allégories. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, le jardin d'Éden, Adam et Ève et tout le reste. Mais ces gens-là prennent vraiment ces récits au premier degré. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est très fort. Hein. Dans certaines régions, aux États-Unis même, il y a des pétitions qui sont faites pour qu'on cesse d'enseigner dans les écoles l'évolution des espèces. Hein.
Ah oui,
c'est la théorie de Darwin. Et on veut réintroduire le créationnisme. Hein. Dieu a créé Adam et Ève. Donc, on veut... Et dans certaines écoles, on a retiré tout simplement l'idée d'enseigner le créationnisme, aux jeunes dans ces régions, et en particulier ce qu'on appelle la Bible Belt aux États-Unis, donc des groupes très fondamentalistes religieux du centre des États-Unis. Ces gens-là veulent le retour dans les écoles de l'enseignement du créationnisme pour qu'il fasse un contrepoids à la théorie de l'évolution. Soit dit en passant, la théorie de l'évolution n'est pas une théorie, c'est un fait. Là.
Mm-hmm. Ben oui.
Les gens, ceux qui veulent le mépriser disent souvent, ah, c'est la théorie de l'évolution. Non, l'évolution, c'est pas de théorie, c'est un fait. Là. Mais néanmoins, bon, on comprend que dans ces groupes fondamentalistes, pour eux, l'évolution n'est qu'une théorie. Et ils veulent faire contrepoids à cette théorie de l'évolution en imposant dans les écoles le retour de l'enseignement du créationnisme. Et donc, on comprend pour ces groupes fondamentalistes religieux, ben, un argument de poids à leur discours serait de trouver des vestiges qui prouvent bel et bien l'existence d'un jardin d'Éden, d'un Adam et Ève, d'un arche de Noé. Donc, tous ces éléments-là qu'on retrouve dans les récits fondateurs du judaïsme et éventuellement aussi quelque part, c'était des récits fondateurs dans le christianisme. Oui. Donc, si on trouvait des preuves matérielles de ces histoires-là, ben, ça viendrait ajouter du poids à leur argumentaire qu'on doit enseigner le créationnisme. Et c'est peut-être pourquoi ces quêtes de retrouver, par exemple, l'arche de Noé, retrouver l'arche d'alliance de Moïse, prouver que le déluge a eu lieu ou prouver que la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer les Hébreux qui fuyaient l'Égypte. Donc, tous ces grands récits fondateurs, si on trouvait des preuves matérielles qui démontreraient que ce ne sont pas simplement des allégories comme le soutiennent les historiens, ben, ça viendrait ajouter de l'eau à leur moulin. Et donc, on peut comprendre que ces gens-là se donnent rendez-vous et se donneront rendez-vous au cours des prochaines semaines, sinon des prochains mois, à cette fameuse arche de Durépinard pour faire les fameux prélèvements dont ils parlent et qu'ils anticipent déjà.
Ben, tu sais, je regardais les photos pendant que tu racontais sur Vive Google Photos. Mais ouais. Je comprends que de vue aérienne, ça a vraiment l'air d'un gros, gros bateau, mais...
Absolument.
Ça fonctionne, là.
Oui, oui. Donc, non, il n'y a pas un fantasme ici imaginaire.
Non,
je veux dire, ça a l'air d'un bateau. Quand on arrive au nord, quand on arrive sur le bord de la vallée, parce que c'est dans le fond de la vallée, mais qu'on arrive juste au bord, il y a une espèce de... On a comme un ravin, une dénivellation de plusieurs dizaines de mètres avant d'arriver au fond de la vallée où se trouve le fameux rocher. Ben, quand on est sur les bords et on regarde ça, ça a l'air d'un bateau. C'est exactement de ça que ça sert. C'est ça que ça a l'air. Donc, on peut comprendre que les gens, certains y voient des vestiges de l'arche de Noé.
Ouais.
Et ultimement, ben, de toi à moi, là, je ne veux pas prendre position dans le débat, mais il y a plus de chances que s'il y a eu une arche et qu'il reste des vestiges, il y a plus de chances que les vestiges de l'arche soient dans le fond d'une vallée qu'au sommet du mont Ararat qui culmine à 6500 mètres.
Ouais, tu comprends?
Donc, se donner rendez-vous au sommet de la montagne pour essayer de trouver des vestiges de l'arche, je pense que c'est un peu poussé loin, tu sais.
Ben oui, mais bon. L'histoire, tu sais, l'histoire du déluge et que Noé a embarqué tous les animaux, ça devait prendre... admettons que c'est arrivé, là, ça devait prendre un bateau. C'est inimaginable.
Non, mais techniquement, Nick, il y a des scientifiques qui ont calculé ça. Hein. Bon,
Un
premier temps, il y a comme des absurdités. Hein. Bon, je veux dire, Noé n'aurait pas pu faire monter dans l'arche des bateaux, des animaux qui appartiennent à d'autres régions. C'est comment Noé avait jamais vu des kangourous. Donc, il n'aurait pas pu faire monter des kangourous dans l'arche. Hein. Les kangourous, c'est une espèce qui est particulière à l'Australie. Là. Donc, il n'y avait pas de kangourous au Moyen-Orient. Là, à l'époque de Noé. Là. Donc, il n'aurait pas pu faire monter des espèces de tous les animaux. Mais il y a des scientifiques, dans mon livre, À la recherche des reliques saintes, je donne les chiffres. Hein. Ils sont hallucinants. Là. Si Noé avait dû faire monter là, toutes les espèces d'animaux connues, là, on parlerait comme de 4805 mammifères ou 2 millions de d'insectes, 10 millions de cioles. Les chiffres là, sont hallucinants. Là. C'est astronomique. Là. Tu peux même pas imaginer une telle quantité d'animaux réunis en un seul endroit. Donc, on croit d'ailleurs Si on aborde un peu cette question-là, les historiens sont plutôt d'avis que le récit du déluge, qui, encore une fois, faut-il le rappeler, n'est pas propre à la Genèse. Hein, c'est un récit qui est plus ancien, qui nous vient du Sumer. Mais on croit que ce récit-là aurait été alimenté par des inondations. À l'époque, on avait le Tigre et l'Euphrate, qui étaient les deux fleuves importants, et qui souvent sortaient de leur lit avec des inondations lorsqu'il y avait des crues. Et on croit que ce récit du déluge fait référence à un grand déluge local qui aurait eu lieu, hein, une inondation locale très importante, et des gens auraient fait monter leurs animaux de ferme dans un bateau pour essayer d'échapper à ce déluge-là, okay. Et ça aurait donné naissance au récit biblique. Mais c'est probablement une petite catastrophe locale et une initiative par quelques paysans d'avoir construit un bateau pour ramener leurs animaux dans le bateau pour échapper à cette inondation locale et qui a alimenté le récit plus tardif ensuite du déluge de la Genèse.
Et finalement, le bouche-oreille qui devient le jeu du téléphone a augmenté.
Oui, mais il faut toujours aussi retenir, puis ça c'est important, tu sais, je vois que le temps file, mais il faut quand même prendre 30 secondes pour dire que faut faire dans ces fameux récits, hein, qu'on parle de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, par exemple la vie de Jésus qui marche sur les eaux, multiplie les poissons et tout le reste, ou les récits de l'Ancien Testament, de la Torah juive, Moïse qui sépare les eaux pour amener les Hébreux vers la terre promise, puis tout ça. Il faut toujours se rappeler. Bon, et bien sûr, les fondamentalistes religieux diront qu'il faut prendre ces textes-là à la lettre, au pied du mot. Là. Mais les historiens disent qu'il faut faire attention parce que ces textes-là, en réalité, ce sont des textes qui ont été, entre guillemets, catéchisés. C'est-à-dire que les auteurs de ces textes-là, si on prend par exemple l'Ancien Testament, on a à peu près des récits qui ont 600 ans de tradition orale avant qu'on ait les premiers écrits. Et dans le cas, par exemple, du Nouveau Testament, donc la vie de Jésus, on a à peu près 20 à 30 ans de tradition orale avant que les premiers textes soient écrits. Et dans un cas comme dans l'autre, les auteurs de ces textes-là ne sont pas là, puis je le répéterai jamais assez souvent, les gens qui ont écrit ces textes-là ne sont pas là pour raconter l'histoire avec un grand H.
Ouais.
Les gens sont là, ils écrivent une histoire qui est l'histoire de leur foi. Donc, ça a pas ils vont inventer des miracles, ils vont inventer toutes sortes de merveilles parce qu'ils veulent ils veulent dire, voici, nous croyons en Dieu, Dieu est grand, et voici pourquoi on croit en Dieu. Et donc, on crée un monde un peu imaginaire qui rend plus grand le Dieu de leur croyance. Donc, ces textes-là sont écrits dans ce sens-là, et non pas dans le but de nous raconter une histoire factuelle avec un grand H, comme le ferait un journaliste de l'histoire. C'est pas l'objectif qui est visé par ces textes-là. Et si on comprend pas ça, ben, c'est inutile de lire ces textes-là parce qu'on pense aux côtés de ce que les auteurs ont voulu nous communiquer. Les auteurs ont voulu nous communiquer un message de foi, pas un message d'histoire.
Oui, c'est ça.
Pas des faits historiques, exactement.
Rappelons, Christian, avant de terminer, parce qu'il nous reste à peu près quoi, 2 minutes, ton livre qui va sortir la semaine prochaine, puis il y a une conférence aussi à Québec prochainement.
Oui, on est pratiquement un mois avant la conférence, il reste encore quelques places, ça s'envole vite, donc ceux qui veulent se joindre à nous, je le rappelle, c'est le 4 octobre, c'est dans l'amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval, et il y aura également une conférence semblable là, le 15 novembre à Montréal. Donc, pour ceux qui vont écouter l'émission en différé qui sont de la région de Montréal, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site web, qui est le christiantradunionpage.com, christiantradunionpage.com. Vous allez dans l'onglet « Conférences ». Toutes les informations sont là, où, quand, comment, pourquoi, vous allez tout trouver. Et cette conférence aura pour thème « Les grandes fraudes du paranormal ». Parce que c'est peut-être les grandes fraudes du paranormal. J'avoue que là, je me fais plaisir parce que j'adore déboulonner des fraudes. Et c'est toujours impressionnant de voir comment, quelque part, des escrocs ont réussi à nous entuber, et dans certains cas, pendant des années. Et il y a même certaines des fraudes que je vais présenter en salle dont on déboulonne l'histoire. On se dit, ben voici comment le fraudeur s'y est pris pour nous faire avaler cette couleuvre-là. Mais quelque part, il y a une volonté telle dans l'univers du paranormal que malgré le fait qu'on va démontrer ou illustrer la fraude, elle va perdurer. C'est un peu comme le monstre Frankenstein. À un moment donné où le docteur Frankenstein a créé son monstre, il prend vie de lui-même et on est plus capable de l'arrêter. Et c'est un peu ce qui arrive dans certaines fraudes du paranormal. Il y a certaines histoires qui ont pris vie d'elles-mêmes et même on fait une analyse critique des événements ou des éléments et qu'on essaie de la déboulonner, on est certain que demain matin, elle va réapparaître quelque part et elle aura une nouvelle vie à nouveau. Parce que les gens ont cette espèce de besoin de croire en quelque chose de fantastique. Et les fraudes, ben quelque part, elles viennent donner sens à cet émerveillement.
Christian Page, toujours un immense plaisir de t'entendre. Je te souhaite un bon week-end et on reprend ça la semaine prochaine.
Absolument. Donc, je rappelle aux gens, oui. La semaine prochaine, ce sera question du public. Donc, si il y a des gens qui ont des questions à poser, ont envie de me voir aborder certains sujets, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement, soit sur mon site web, sur le site Facebook de la station de Radio X. Et puis, on va prendre ça, on va décanter ces questions-là. Puis, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut.
Avec un immense plaisir. À la semaine prochaine.
Ça marche.
Merci,
salut.
Merci, bye. This
is not a test. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Choix Radio. Choix. Et 98. 1.
Choix.
Radio X. À Québec. C'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
La sexe.
La sexploratrice.
Exploratrice.
Avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Mel et vous écoutez la sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X et pour